Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde a todos e a todas. Bonjour à tous. On va encore aujourd'hui sauter du Portugal français. Bom, começamos a falar em português, ainda que dentro de alguns instantes. Vamos misturar com a língua dita de Voltaire. Vamos deixar o Camões um bocadinho de lado, ainda que há que referir que no próximo ano vai haver um centenário importantíssimo. Bom, para já, vamos falar de uma situação concreta que vai implicar todos os cidadãos de França, digo bem, em França, de França, não digo franceses, de França, na medida em que o projeto de Orçamento Geral do Estado para 2025 prevê um certo número de cortes para as coletividades locais, diz respeito às regiões de apartamentos, mas igualmente às municipalidades. Connosco aqui nos estúdios temos Filipe Ferreira, maire adjoint a Nogent-sur-Marne, no departamento 94. Vamos tirar as conclusões igualmente do 42º Congresso do PSD, que teve lugar em Lisboa nos dias, em Braga, nos dias 19 e 20 de outubro, e queremos saber mais no que diz respeito às propostas aprovadas em relação às comunidades portuguesas. Connosco o antigo secretário de Estado das Comunidades e várias vezes deputado pelo ciclo da Europa PSD, Carlos Gonçalves. Ainda no quadro do 50º aniversário do 25 de Abril, realiza-se um colóquio internacional de 7 a 9 de novembro, intitulado Écho d'Avril en France, regard et mouvement d'hier et d'aujourd'hui, organizada pelo Centre de Recherche interdisciplinaire sur le monde lusophone, isto diz respeito à Universidade de Paris-Nanterre. Teremos dois intervenientes precisamente nesse colóquio internacional. Falaremos igualmente algo diferente, BD, banda desenhada de l'Atelier Brouillon, um espaço criativo e de apoio aos artistas que abriu suas portas no passado mês de agosto em Angoulême. Angoulême, que como toda a gente sabe ou deveria saber, é a capital da banda desenhada. Teremos connosco a Madalena Pereira, desenhadora, autora da BD Borboleta, edição Barbacana, que é uma das fundadoras do Atelier Brouillon. Alors, avant tout, Filipe Ferreira, bonjour, boa tarde et obrigado et merci d'être avec nous.
Merci à vous pour votre invitation.
Alors, heureusement qu'à vous, avec vous, on peut sauter d'une langue à une autre. Bon, on va commencer en français. Alors, si on parle justement de ce projet de budget, alors une confusion totale à l'Assemblée nationale, parce que les députés qui font partie du gouvernement votent contre le projet. Bon, c'est trop compliqué, il faut attendre un petit peu le passage du projet par le Sénat, etc., etc. Mais je vais lire un petit extrait d'une motion de intercommunalité et communalité de France. Les intercommunalités de France ont toujours affirmé l'existence d'une communauté de destin entre décideurs publics devant les comptes de la nation. Nos collectivités locales, l'Hexagone et de l'Outre-mer, ne sont pas responsables des déficits ou de l'endettement de l'État, mais elles sont lucides face au péril que cette situation fait peser sur les Français. Alors, Filipe Ferreira, vous êtes un élu local, donc peut-être commencer par là. Les mairies, bon, vous n'avez pas le droit d'un déficit, vous.
Alors non, nous effectivement, on ne peut pas voter un budget en déficit. Il faut qu'il soit toujours à l'équilibre, à la différence de l'État qui se permet ce genre de déséquilibre. Mais effectivement, on n'a pas les mêmes obligations, en l'occurrence, ni les mêmes devoirs.
Alors, Monsieur Bruno Le Maire a dit, bon, une bonne partie du déficit, il a parlé de plusieurs dizaines de milliards, c'est à cause des collectivités locales. Bon. On ne peut pas reprocher ça à Nogent-sur-Marne, on s'en fout.
Alors on ne pourra pas le reprocher à Nogent-sur-Marne. C'est un jeu traditionnel, malheureusement, c'est sans doute l'un des péchés de la classe politique, c'est de renvoyer toujours la balle chez le voisin et de renvoyer la responsabilité aux autres. On le voit aujourd'hui, et là vous lisiez un texte, un extrait de la conférence des intercommunalités, et effectivement, ça n'est jamais de notre faute, c'est toujours de la faute des autres. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, c'est moins de savoir d'où ça vient et à cause de qui ça c'est. On se retrouve dans une situation aussi délicate, pour pas dire très inquiétante, mais il faut juste que chacun prenne sa part de responsabilité.
Alors, ça concerne le Val-de-Marne, je fais des projections. Hein, ouais. Parce que j'ai eu un contact avec le cabinet de M. Olivier Capitaniou, qui est le président du conseil départemental du Val-de-Marne, et selon justement un dossier qui avait été publié par Intercommunalité Communalité, j'ai du mal à le dire ce matin, de France, les projections pour le Val-de-Marne parlent parlait de 30 et quelques millions d'euros de prélèvements. Entre-temps, selon les dernières projections, je cite toujours un membre du cabinet de M. Capitanio, finalement, au niveau du rendement, ce serait 77 millions d'euros de moins. Est-ce que vous savez un petit peu à quelle sauce, je pense que l'expression, va être mangée un Nogent-sur-Marne?
Alors, nous, on estime le risque supérieur à 1 million d'euros. C'est encore très aléatoire parce qu'on ne sait pas précisément quelles sont les mesures qui vont être prises et adoptées dans cet effort collectif. Mais quoi qu'il en soit, plus d'un million d'euros, c'est déjà énorme, même pour une ville extrêmement bien gérée, dans une situation financière plutôt saine comme celle de Nogent aujourd'hui.
Alors, peut-être détailler justement les responsabilités des municipalités, puisque bon, l'État il se décharge de plus en plus sur les collectivités locales, les dotations ne suivent pas toujours, ou alors, bon, il y a discussion énorme, justement, avec les ministres des Finances. Alors, il y a cet nombre de services qui sont dépendants des municipalités, des départements ou des régions. Alors, commençons justement au niveau des petites choses concrètes. Des services, l'aide sociale à l'enfance, les actions en faveur de l'emploi et de la formation, le programme local de l'habitat, actions et aides financières en faveur de logements sociaux, les actions communautaires, les gestions des équipements culturels et sportifs. Je pourrais continuer la liste. Donc, ça va avoir une implication directe dans la vie concrète des Nogentais.
Oui, pour avoir un ordre de grandeur, alors Nogent, on est sur un budget de 90 millions d'euros par an, 63 millions en fonctionnement, c'est-à-dire vraiment le fonctionnement courant, et 27 millions d'euros pour les investissements. Tout ce qu'on construit en gros et qu'on investit dans le matériel et le très durable. Un million d'euros, et encore, je vous dis, c'est à la louche, on n'a pas idée. Si ça se trouve, ce sera 2 millions. Je pense pas que ce soit 500 000. Mais 1 million d'euros, c'est la subvention qu'aujourd'hui Nogent-sur-Marne verse directement à l'ensemble des associations de la ville. Donc c'est une masse importante. Oui, on a effectivement les écoles qui sont l'un des gros postes pour une ville comme la nôtre, l'aménagement en général, la voirie, l'entretien, les espaces verts, l'action sociale, notamment au travers des centres communaux d'action sociale. Donc oui, on est au quotidien et ce sera un impact alors direct ou indirect, mais il est certain si c'est une baisse sur le fonctionnement, si on devait répercuter nos baisses, en tout cas cette participation à l'effort national, si on doit le répercuter sur le fonctionnement, ce sera forcément dans l'aspect service à la population que ça se ressentira tout de suite. C'est en général ce qu'on évite de faire dans des mesures dans des périodes de rigueur comme celle-ci. Si on répercute sur de l'investissement, ce sera de toute façon un impact, alors peut-être indirect, il sera un peu décalé dans le temps, on le verra parce que peut-être qu'on investira moins pour refaire tel ou tel trottoir, mais au final, ce sera moins de travail pour les entreprises locales et donc sont les salariés et les travailleurs de la région qui seront impactés forcément. On ne peut pas faire face à ce type de situation et aux baisses et de dotations et donc de recettes et d'investissements ou de fonctionnement sans que la population le ressente d'une façon ou d'une autre.
Alors, il y a quelque chose de très important, le gouvernement sont toujours contents, ça se comprend, c'est qu'une bonne partie de l'investissement public vient des collectivités locales. Donc, concrètement, quand on dit, produire davantage, développer davantage le pays, etc., s'il y a des coupes financières, donc c'est le financement, c'est l'emploi, c'est ce nombre de choses qui seront en jeu.
Oui, bien sûr. C'est en ça que je parle de conséquences indirectes, mais c'est juste indirect dans une question de temps. Quand c'est du direct, c'est des subventions, c'est des aides en moins, par exemple, ou des services en moins à la population. Si effectivement on investit moins, on le ressentira à terme, notamment au niveau de l'emploi. C'est un vrai risque. Mais il faut avoir en tête que aujourd'hui on parle beaucoup de cet effort, mais cet effort, les collectivités locales l'exécutent et le ressentent depuis plusieurs années, parce que on a eu la perte de la taxe d'habitation avec une compensation.
Apparemment, elle doit revenir. Bon.
Alors non,
mais
ça
on
c'est.
On ne sait rien.
On l'évoque, mais elle ne reviendra jamais sous ce terme-là, et ce serait quand même malheureux d'avoir à détricoter des mesures qui ont été prises au cours des années précédentes par les gouvernements
précédent.
De précédent. Mais la taxe d'habitation est supprimée, elle a été compensée essentiellement l'année A, et les années qui ont suivi, il n'y a pas eu d'indexation, il n'y a pas eu de compensation suivant ce qu'on pouvait imaginer. C'est la même chose pour différentes dotations, la dotation globale de fonctionnement, qui est une dotation importante versée par l'État pour les collectivités, qui n'est pas indexé sur l'inflation. Donc, ce qui signifie que depuis plusieurs années, on est sur des chiffres stables, ce qui ne correspond pas à la réalité des dépenses.
Oui, mais entre-temps, les propriétaires, ils ne sont pas tellement contents, hein, parce qu'ils disent, bon, les municipalités ont profité pour augmenter la taxe foncière. Bon, le cas de Paris, c'est extrême, parce qu'on a augmenté de 50%, un truc comme ça. Les propriétaires neugentais, comment...
Alors, les propriétaires neugentais, ils sont comme les autres. Ils ont vu que... Alors, Nogent ne touche pas à son taux de taxe foncière depuis 9 ans. Nous n'y avons pas touché depuis 9 ans.
C'est-à-dire que vous n'avez pas augmenté.
Non, le taux est le même depuis 9 ans. Alors, évidemment, les neugentais, parfois, viennent se plaindre en nous disant « Mais je ne comprends pas, vous nous dites ça, et voilà le résultat. » Effectivement, parce qu'il y a ce qu'on appelle la revalorisation des bases, c'est-à-dire qu'on évalue la valeur des biens immobiliers, ouais. Et ça c'est l'État qui le fait, et donc il peut y avoir des situations où on ressent au final une augmentation. Le sujet est moins l'augmentation de la taxe foncière en tant que telle, que d'avoir le sentiment qu'on est sur un système équitable où tous contribuent, propriétaires et locataires.
Bah parce que dans l'immobilier tout ça, il y a la spéculation immobilière. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui avaient une petite maison, un petit appartement, ça a pris une valeur énorme, il y a des gens qui ont plus d'argent pour payer les charges, etc. etc. Mais il y a un autre reproche qui a été fait à vous, collectivité territoriale, au local, c'est une augmentation énorme des fonctionnaires. Alors, à Nogent-sur-Marne, vous privilégier quoi? Le présentiel, le digital, comment ça se passe? Parce qu'on a vu déjà avec les cartes, nouvelles cartes d'identité, il a fallu que les mairies, c'est-à-dire investissent en personnel, en matériel, etc. Vous, qu'est-ce que vous privilégiez? Le présentiel, parce que c'est très important, hein, le contact avec la population.
Oui, on n'est pas en termes de service à la population. Alors, l'effort sur la masse salariale, on le pratique depuis un certain nombre d'années. Mmh. On contient beaucoup toute la gestion du personnel communal. Ceci étant, on est la strate on est à portée de baffe, disait
Vous êtes quelqu'un qu'on peut attraper par le collège, par l'expression.
Absolument, on ne peut pas se déplacer dans la rue sans être interpellé, et à juste titre, on est là pour ça, on l'a voulu. Donc, il est important qu'on puisse maintenir ce lien, et quand on sait que la plupart des administrations, la plupart des services, des grandes entreprises, se déporte de plus en plus sur des systèmes de hotline, de call center, même à l'étranger. Non, nous, on essaie de maintenir tout de même un service direct et une relation directe avec nos administrés. Ceci étant, ça ne nous empêche pas d'essayer de faciliter les services proposés. Là, vous parliez, par exemple, de tout ce qui est papier d'identité. Malheureusement, aujourd'hui, quand on sait que ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour avoir un passeport ou une carte d'identité, une fois encore, ça n'est pas du côté des collectivités, c'est du côté de l'État et des préfectures, malheureusement.
Ouais, mais mon cas concret, bon, je ne suis pas un exemple, mais enfin, pour personne, ça n'empêche qu'entre la prise de rendez-vous et avoir carte d'identité et passeport, ça a mis 15 jours. Dans le Vaudoise.
Bon, vous avez eu beaucoup de chance. Alors, c'est presque aussi bien que le Portugal.
Parlons un petit peu de l'habitat. Oui. Le département du Val-de-Marne, avec M. Capitanio, a changé des zones de braquet, ça concerne le logement social. Il a accusé un certain nombre de municipalités d'avoir trop d'HLM. Alors, qui dit HLM, dit des gens qui ont des revenus faibles, etc., etc. L'ancien gouvernement voulait changer la loi SRU, donc on est obligé d'avoir 20% de logements sociaux, etc. Et quelle est la situation par rapport au logement social à Nogent-sur-Marne?
Alors Nogent, c'est une ville, il faut l'avoir en tête, c'est 35 000 habitants sur moins de 3 km². On est à 2,8 km².
Ouais.
Donc c'est une ville extrêmement dense où il n'y a plus de foncier disponible. Quand il y a du foncier, ce sont des maisons ou des immeubles à abattre pour reconstruire. Donc, ce qui est difficilement envisageable. On est en carence sur le logement social, malgré des efforts réels depuis une bonne quinzaine d'années, mais vraiment réels. On n'arrive tout de même pas à atteindre les objectifs de la loi SRU, et on ne les atteindra pas. On ne peut pas les atteindre. C'est un fait, c'est comme ça. On ne peut pas aujourd'hui atteindre les 20% de logement social à nos gens, sauf à déloger et à requalifier des logements privés en social. Enfin voilà, c'est impossible techniquement. Alors, la méthode, et le maire et la municipalité sont engagés là-dessus depuis fort longtemps, et avec une reconnaissance des services préfectoraux, donc des services de l'État, sur cet effort. On est dans le cadre d'un contrat de mixité sociale qui implique que sur tout ce qui est nouvellement construit, on s'oblige à prévoir au moins 25% de logement social. Une réforme est nécessaire, il est important, et à mon avis elle devrait porter sur deux aspects. Le premier, c'est que les objectifs de la loi SRU, en tout cas du logement social, soient portés, même avec un effort supplémentaire sur le flux, c'est-à-dire tout ce qui est nouvellement construit, mais que l'on admette que par rapport à ce qui est déjà construit, au stock, on ne peut pas atteindre un objectif de 20%. Donc on pourrait avoir 25% par exemple sur ce qui est nouvellement construit et se focaliser là-dessus. Le deuxième point, c'est les indemnités, les pénalités par rapport à la loi SRU. On paye une amende parce qu'on n'a pas assez de logements sociaux.
Vous n'êtes pas le pire,
alors. Alors, on n'est pas les pires parce que on a encore la main sur les permis de construire. Aujourd'hui, on est sur une pénalité proche d'un million d'euros. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas réutiliser, nous, directement, cette pénalité pour construire et pour investir sur le logement social. Quand on connaît les prix de l'immobilier à nos gens qui oscillent entre 7 et 8, 9 000 euros, pour pas dire plus, sur certains projets, mètres carrés, il faut imaginer ce que ça implique de construire du logement social, d'avoir un terrain et de reprendre ce qui existe.
Est-ce que vous avez utilisé l'encadrement des loyers ? Il y a une loi qui est passée là-dessus.
Je veux pas vous dire de sottises. Il ne me semble pas que ce soit le cas.
Alors, quelque chose de très important, c'est ça a à voir avec l'aménagement de la ville, le commerce local. Parce que justement, 35 000 habitants, a une vie locale. Et on sait très bien que le commerce local, le commerce dit de proximité, c'est quelque chose de merveilleux. On descend en bas de chez nous et on a les choses. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Jean-Simon?
Alors, on est une ville dynamique du point de vue du commerce local, encore, on l'est, comparativement à d'autres villes. Ceci étant, je ne peux pas dire, si en plus des Nogentais nous écoutent aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on est dans une situation florissante. C'est extrêmement compliqué, d'abord parce qu'on est une ville dont les habitants travaillent beaucoup à l'extérieur, et de ce fait, ça limite la dynamique commerciale, en journée notamment. Ensuite, on a des particularités sur nos gens, sur deux axes en particulier. Le premier, c'est que les cellules commerciales sont assez petites. Nous en avons beaucoup, mais assez petites, ce qui limite l'implantation de certains types de commerces, notamment des franchises ou des locomotives de ce type-là. Mmh. Donc, on rabat plutôt sur du commerce très indépendant sur nos gens. Le deuxième point étant que les loyers sont extrêmement élevés sur le commerce local. Ils le sont déjà sur l'habitation et la résidence, mais sur le commerce, ils le sont particulièrement. Et aujourd'hui, avec le contexte et la conjoncture actuelle, c'est très compliqué de maintenir la dynamique commerciale.
On revient à la spéculation immobilière, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui spéculent là-dessus. Tout simplement, c'est-à-dire ils sont là pour faire de l'argent, le bien-être des habitants, des petits commerces, etc. Ils s'en moquent.
Je vais pas vous contrarier là-dessus. Je comprends pas l'intérêt que peut avoir un propriétaire de murs commerciaux et sur une ville comme la nôtre à garder son commerce vacant pendant plusieurs mois pour taper très fort avec des loyers très élevés que les commerçants n'arriveront pas à payer plus de deux années, et ils se retrouveront à nouveau vides. Donc moi, ça c'est après, c'est un choix de chacun. C'est aussi la part de liberté et dans l'entrepreneuriat et dans la propriété privée. Mais c'est, pour moi, c'est dommage. Après, nous, on joue notre rôle en tant que ville. On a un manager de commerce. On est très impliqué. On soutient fortement l'association locale. Et surtout, on a un marché en centre-ville qui est très connu, qui est très important, avec une centaine de commerçants, qui tourne très, très bien et que l'on va rénover. Enfin, on rénove pas d'ailleurs. On construit un nouveau marché qui sortira de terre dans un peu plus d'un an.
Et vous sauvegardez toujours le pavillon Baltar. C'est tout ce qui reste des Halles de Paris. Pour ceux qui ont connu les Halles ou d'autres, ils ont connu un trou. Enfin, oui. C'est une autre affaire. Alors, revenons à ce projet de budget. 4000 postes d'enseignants vont être supprimés la prochaine année scolaire, à savoir 2025-2026. La plupart de ces postes, on parle de 3000 et quelques, ça va être au niveau de la maternelle et l'enseignement élémentaire, à savoir le primaire. Ça vous concerne directement, ça.
C'est très inquiétant. Je ne sais pas où on va les trouver. Je ne sais pas comment on va faire. Alors, est-ce que ce sont les enseignants? Est-ce que c'est du personnel de l'éducation nationale?
Non, c'est
des enseignants, précisément. Oui, j'ai entendu la même chose.
4000 postes d'enseignants qui disparaissent.
J'ai entendu la même chose. Moi, je ne sais pas comment on procède. En plus, on avait des dispositifs assez intéressants mis en place justement par les gouvernements précédents, notamment sur les classes de CPCE, où on dédoublait les classes et les résultats étaient probants. Moi, je ne sais pas techniquement. Je ne sais pas comment on va organiser ça. À Nogent, on est sur une relative stabilité des classes, avec quelques ouvertures ou quelques fermetures d'année en année, mais à peu de choses. On a une perspective de toute façon d'accroissement de notre public scolaire dans quelques années, en raison de projets immobiliers qui vont accueillir très prochainement leurs propriétaires ou leurs locataires. Mais c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Oui, on est encore sur des classes pas trop chargées. Elles le sont pas autant, par exemple, dans le public que dans le privé dans notre ville. On a encore deux ou trois établissements privés qui sont très importants à Nogent, donc on a des points de comparaison. Mmh. Ceci étant, il ne faudrait pas que ce désinvestissement se traduise justement par un report forcé sur le privé pour ceux qui ne le veulent pas.
Alors, parce que pour ce qui concerne les élus, je parle de vous et la mairie de Nogent-sur-Marne, vous êtes comptable. C'est savoir que le financement, il y a un problème, il manque une photocopieuse de tombe en panne dans une école élémentaire. Qui c'est qui paye? C'est la mairie. Donc, vous avez en charge financière, il y a tout un tas de choses, il y a les cantines, il y a tout un truc, les maternelles, mais les choix de base. Le nombre de professeurs, bon, la nomination des professeurs, ça c'est l'académie, très bien. Oui. Mais finalement, l'État ou le ministère, je sais pas trop qui, prend une décision, et vous, bon, vous êtes là pour payer et pour barre, c'est tout.
Malheureusement, de plus en plus, en tout cas, oui, sur le fonctionnement des écoles, les villes, donc, en matière scolaire, ont la charge du fonctionnement de l'école. Et donc, des bâtiments et des services, de tous les services annexes, y compris la restauration scolaire ou l'entretien des écoles. On n'embauche pas et on ne paye pas les enseignants. Donc, effectivement, je ne sais pas. Après, il y a une question de qualité d'enseignement, d'objectifs que l'on a pour l'éducation nationale. On ne peut pas passer son temps à taper sur l'éducation nationale, à fustiger les résultats et le niveau de nos élèves et de nos étudiants et de ne pas s'en donner les moyens. Je pense sur ce sujet comme sur d'autres qu'on devrait parfois plus regarder sur les frais d'organisation, les frais administratifs, les frais de structure, plus que ceux qui sont les mains dans le cambouis en train de travailler directement, que sont les enseignants dans les hôpitaux, les infirmiers ou les médecins.
Oui, ça concerne les enseignants. Quand on prend les pays membres de l'OCDE, la France est celui qui paye le moins bien les professeurs.
Oui.
Alors, Philippe Pereira, bon, à ce propos, je peux passer agora para a língua portuguesa. Quais são as suas relações com Portugal e com a língua portuguesa? Onde é que nasceu, Philippe Pereira?
Eu nasci cá, nasci aqui pertinho, em Vilcrene.
É bilingue ou não?
Sou.
E graças a quem?
Graças aos meus pais, primeiro, e depois ao ensino do português. Eu sou um exemplo daquilo que é o ensino de português em França há vários anos.
Que foi
e que é, acho eu, porque beneficiei de aulas de português na minha escola, em Mondrelirose, que era uma aldeia pequena, ainda é, Mas naquela altura havia aulas de português e deixávamos as aulas de francês para irmos às aulas de português. Éramos meia dúzia de crianças. Depois, durante o colégio, o estudo secundário, tive aulas em associação, como ainda é o caso em muitos sítios em França. E depois, quando estive no liceu, ainda estudei português pelo CNED, passei o português em opção, em terceira língua.
No BAC.
No BAC. E depois estudei direito e tive a sorte, na faculdade que retei, de ter aulas de português além do inglês e do alemão.
Teve sorte, porque bom, a situação é diferente. Hoje houve a reforma do BAC, a reforma do liceu, e o português continua a ser ensinado aqui a título experimental nas três academias à volta de Paris, portanto, Créteil, Versailles e estou a esquecer uma agora. O único sítio onde não há problemas nenhums é na Guiana, porque a Guiana tem uma grande fronteira com o Brasil, não é? De maneira que o português é uma língua rara, uma língua não sei o quê. Ora, Filipe Pereira, é luso-descendente, é eleito local. Ora, nós sabemos que vocês podem ter uma ação no sentido de fazer com que o ensino de português, é evidente que vocês não podem obrigar o diretor de uma escola primária ou de fazer abrir os estabelecimentos, as aulas de português, porque isso implica ter lá alguém, implica um seguro, implica isso tudo aí, já vão pedir contas à Câmara. O que é que um eleito local pode fazer, e o caso concreto, o que é que fez, o que é que pensa fazer, para que a língua portuguesa não é uma língua materna hoje, é uma língua de trabalho, um trunfo mesmo para profissional. O que é que pode fazer?
Antes de responder àquilo que podemos fazer, acho que é importante salientar o facto que o português em França e o ensino do português em França tem que sair do âmbito comunitário. Isso é a primeira mensagem que todos devemos dar, e quando falo de todos é não só os portugueses ou os lusodescendentes, são os lusófonos de França, e além deles os franceses que podem estar interessados no português. O português não deve ser visto em França, como foi visto até agora, somente como a língua dos portugueses ou das pessoas de origem portuguesa. Isso já era uma grande diferença, era fazer com que o português seja visto como aquilo que é, uma língua internacional de cultura, de comércio, de negócio, administrativa, política, e para isso já convinha até haver uma ação coordenada entre todos aqueles que se reivindicam do português, ou seja, não só os portugueses e Portugal. Naquilo que nós podemos fazer, e acho que talvez tenhamos falhado numa forma de ação coletiva ou coordenada entre todos os eleitos, apesar de eu saber que há ações de associações de eleitos lusodescendentes e de certos autarcas. Mas primeiro é fazer pressão. A pressão tem que ser primeiro em direção da população e dos pais de alunos, franceses e lusodescendentes ou não. A questão é sempre a mesma, é todos. Aqueles que estejam interessados em ensinar o português aos filhos, ou com que os filhos aprendam o português, que possam manifestar-se. Portanto, isso é fazer uma oferta. E todos os anos eu preencho um papel em Nogent, que me é destinado pela Câmara, aliás, e pela escola, para saber se desejo que, que os meus filhos, que a minha filha...
É o famoso questionário que, em princípio, deve ser proposto aos pais de alunos no início de cada ano, acho. E até o mês de março para
é isso. E vê-se, as línguas são sempre línguas maternas, as línguas propostas, e muitas vezes não sabemos o resultado desse questionário, não sabemos para onde foi, para onde vai e quem respondeu. Eu, parece-me a mim, que não tenho visto os anos anteriores, mas este ano, pela primeira vez, foram-nos propostas aulas de português, ou seja, no Perreux, que é a cidade mesmo a pegar com o Nogent, o que já não é muito mal, mas há aulas de português. Agora, e a professora, salvo erro, é enviada pelo Estado português.
É paga para o Estado português, com efeito. Filipe, Ferreira, não sei como é que eu chamo Ferreira.
Não faz mal, somos primos.
Já o queria batizar. Precisamente, bom, para já, muito obrigado. E agora, bom, agora vamos ver, vamos voltar a falar daqui até o final do ano, se não se importa, a propósito desses questionários, porque talvez isto dê ideias para já aos pais dos alunos pedirem os questionários, e não só, mas também.
Se puder acrescentar só mais uma coisinha, e acho que é muito simbólica da situação em que estamos. O senhor embaixador está muito, muito implicado, muito empenhado neste assunto do ensino. Já tive a ocasião de falar com ele, entre outros, e tenho aqui um exemplo mesmo sistemático. O meu filho, que tem 14 anos, frequenta o Colégio Internacional de Noisy-le-Grand, que é o único nesta parte de Paris, deste lado de Paris, a propor ensinos internacionais, um projeto de estabelecimento. As línguas propostas são não o inglês, mas o americano, não o português, mas o brasileiro, o árabe e o chinês. E, pronto, teve muita sorte em entrar, foi para a secção americana. E o nosso projeto era, obviamente, em segunda língua, ele poder escolher o português. Quando chegou a ocasião de escolher a segunda língua, só podia escolher entre o inglês, entre o chinês e o espanhol. O espanhol, que não é uma das quatro línguas daquele colégio, e nem do Liceu Internacional, acaba por ser novamente imposta e ultrapassar o português. E quando tive uma explicação com o diretor do colégio, explicou-me que, como não é de certeza haver alunos que chegassem em segunda língua a seguir o português, e que indo para o liceu podiam ter também dificuldades com a segunda língua portuguesa, porque não haveria aluno suficiente, acho um escândalo. Digo mesmo assim, é um escândalo.
Filipe, aparentemente a situação modificou, porque vai haver também uma secção de português de Portugal. Isto é foi uma mãe de um aluno que me deu a informação, foi ontem que eu tive. Agora vamos lá ver, isto vai ser para o ano escolar 25, 26. De maneira que, bom, é uma coisa a seguir, aperto para o seu filho. Filipe Pereira, muito obrigado por ter vindo aqui um domingo, e mantemos em contacto, evidentemente. Bom, estamos aqui também para ouvir e dar a conhecer aquilo que vocês avançam em todos os sentidos do termo a favor dos cidadãos da França.
Muito obrigado, obrigado pela atenção. Muito obrigado. Rádio Alfa.
Voltamos agora ao Direto. Relembro, domingo dia 27 de outubro, emissão até às 14 horas, com a difusão na noite terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o Pó da Casta. O 42º Congresso do Partido Social Democrata realizou-se em Braga nos dias 19 e 20 de outubro, e foram avançadas um set de propostas em relação às comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Carlos Gonçalves, muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Lembro, antigo secretário de Estado das Comunidades, várias vezes eleito deputado pelo Círculo da Europa. Ora, antes de falarmos dessas propostas que aparentemente foram aprovadas relativamente às comunidades portuguesas, para si, que resumo podemos fazer desse congresso? Porque, bom, há bastantes anos esta parte que o PSD, em coligação com o CDS-PP, chamada AD, governa Portugal. Qual foi a tónica deste congresso?
É realmente um congresso diferente, porque estamos na governação, que tem acontecido há muito tempo. Mas também não deixa de ser verdade que é um congresso que acontece no momento em que o PSD e o CDS, aliados na AD, têm, como é evidente, uma curta maioria na Assembleia da República, ou seja, têm que ter uma governação muito aberta também ao trabalho com os outros diferentes grupos parlamentares, portanto, tarefa que não é fácil. Mas também é um congresso que antecede as eleições autárquicas do ano que vem e praticamente as eleições presidenciais. Portanto, era uma reunião magna que tinha uma importância muito grande, por isso o debate que se instalou dentro do congresso foi um debate importante, visto respeito à reflexão. É verdade que o Partido Socialista tinha antecipado, através do seu secretário-geral, de viabilizar o orçamento de Estado na generalidade e mais tarde em votação final global, e queremos ver ainda, mas pronto, foi uma promessa antecipada, retirou esse tema da discussão e, portanto, foi realmente um congresso muito importante naquilo que é a reflexão e também na consolidação de uma liderança, porque tanto o partido como o país precisa, muito precisamente, mas não é só Portugal que precisa, eu acho que aqui em França também precisamos praticamente da mesma coisa, é de uma liderança forte, independentemente da democracia, através dos seus parlamentos, obrigarem, como é evidente, a uma negociação permanente que não é fácil de gerir no dia-a-dia.
Ainda que em Portugal, aparentemente, é mais fácil fazer compromissos, no bom sentido do termo, do que aqui em França. Aqui em França, estão a fazer a aprendizagem daquilo que se passa numa Assembleia, num Parlamento, mas enfim. Ora, vamos à questão das comunidades portuguesas, porque um certo número de propostas estavam em cima da mesa. Comecemos, talvez, por algo que andamos atrás disso há anos e anos. Quando se está na oposição, é a favor. Quando se está no governo, bom, temos que ver como é que é. Comecemos com o aumento de deputados eleitos para os dois círculos das comunidades. Ora, em Portugal, está-se a pensar reduzir o número de deputados na Assembleia da República. Reduz-se de um lado, aumenta-se do outro, porque, bom, do ponto de vista cívico, justifica-se, segundo o Carlos Gonçalves, o aumento de deputados, passar para 2 para 4, por exemplo, por cada círculo?
Eu acho que é a primeira pessoa a falar disso, mas bom, não quero agora aqui estar a dizer que fui o primeiro. Agora, a questão de fundo é esta. Durante muito tempo, nós tivemos um problema, temos poucos licenciados. Esse problema foi resolvido através, sobretudo, de um acordo entre os dois grandes partidos, o PSC e o PS, implantando aquilo que se chama, mas que não é um recenseamento automático, mas é um recenseamento quase automático, ou seja, o número de eleitores aumentou de forma exponencial. Os críticos voltaram, disseram que somos muitos com o direito de poder votar, mas somos poucos que participamos, e portanto eu, retirando mesmo este argumento, tenho um argumento que é um argumento fundamental, que é o da participação. Nós tivemos mais de 300 mil portugueses no estrangeiro que votaram nas últimas eleições legislativas, com apenas 4 deputados, e distritos como Leiria e Coimbra, com cerca de 200 e tal mil eleitores, têm 10 deputados, ou 9 deputados por aí, salvo erro, pode haver aqui um ligeiro engano do número, mas é mais ou menos isto. E, portanto, acho que é legítimo que aqueles que residem no estrangeiro, já nem falo do número de inscritos, falo do número daqueles que se interessam e participam, e é preciso perceber que quem está no estrangeiro, que sente as coisas de uma forma diferente, muitas vezes nem é tão tentado a participar na vida política de Portugal, porque está muito distante. Não estou aqui a falar para a Rádio Alfa está a 2 horas de avião, mas um dos meus filhos reside agora na costa oeste dos Estados Unidos, estão a 13 horas de avião. E os portugueses lá também votam. E se votam é porque se interessam por o país. Portanto, a mim parece normal e legítimo. Sobre a diminuição do número de deputados, eu não quero entrar muito nessa discussão, mas eu recordo que no tempo do presidente do PS, Rui Rio, e como todos sabem, eu e o doutor Rui Rio tivemos alguns momentos por vezes, independentemente do respeito mútuo, de alguma confrontação, aquilo que eu sei é que ele fez entrar uma proposta, que acabou por não entrar, porque houve todas as vicissitudes da vida parlamentar, mas que diminuía o número de deputados, e no geral, mas que aumentava o de imigração de 4 para 5. Eu achei curto, mas é a primeira vez que havia uma proposta escrita, que mesmo no caso de uma diminuição do número de deputados, havia um aumento do número de deputados para a imigração. E, portanto, eu parece-me que a sensibilidade em Portugal pode ir nesse sentido. Agora, nós não temos, e isso é importante, e vou-lhe dar um exemplo como é importante, nós não temos a organização política que tem as distritais dos partidos em Portugal. Nós não temos as organizações que outros têm, porque têm eleições autárquicas, têm pessoas candidatas às juntas de freguesia, têm às câmaras municipais, ou seja, têm muitas pessoas em torno da discussão política local, e nós aqui não temos praticamente lugar político nenhum para dar, a não ser o lugar de deputado à Assembleia da República, que na maioria dos casos da história democrática portuguesa foi ocupada por pessoas residentes em Portugal. Portanto, neste combate do dia-a-dia, nós estamos muito longe e não é fácil vingar a nossa opinião. Resta-nos, por isso, bater esta questão várias vezes, novamente em Congresso Nacional, e em relação à possibilidade de alargar ainda mais a participação, nós propomos à Associação das Diferentes Metodologias de Voto, Vimos novamente as duas moções que me deve ter reparado com a questão do voto eletrónico, pode ser associado ao tipo de votação, mas nessa matéria o Artur Silva e os ouvintes da Rádio Alva sabem que, pelo menos eu, quando estive no governo, cumpri, porque fiz o único teste que até hoje foi feito para o voto eletrónico e outros feitam no futuro e no presente.
Com efeito, outra coisa, o voto eletrónico, mas sobretudo, quando, será que é necessário uma revisão constitucional? Não sei, faço a pergunta ao Carlos Gonçalves. Uniformizar, quer dizer, que seja única, que haja diversas formas de votar, mas que finalmente, atualmente, há eleições que são presenciais no consulado. Outras são por via postal. É impossível uniformizar isso tudo.
O pedido de uniformização é um pedido que eu faço há muito, como sabe. Além disso, o próprio Presidente da República, no Luxemburgo, e por acaso a Comunicação Social não deu seguimento a isso na altura, numa visita que fez ao Luxemburgo, também afirmou a necessidade de haver uma uniformização da metodologia de voto. Nós não podemos mudar de metodologia, porque, repare, nós recentemente tivemos um exemplo em que a diferente metodologia de voto deu resultados bastante distintos e bastante dispersos, apesar das eleições serem diferentes. Porque, repare bem, para as legislativas, o partido que venceu claramente nas comunidades portuguesas, nomeadamente no ciclo eleitoral da Europa, foi o Chega, seguindo-se o Partido Socialista, ficando o PS em terceiro lugar. Poucos meses depois, nas eleições europeias em que o voto é presencial, a AD ganha na Europa, o Chega, a Iniciativa Liberal fica em segundo, o Chega fica em terceiro e o Partido Socialista fica em quarto. Ou seja, duas eleições com uma proximidade muito grande temporal, está bem com objetivos diferentes, mas que a metodologia de voto alterou completamente o resultado da votação. E, portanto, nós temos de ter uma votação única para todas as eleições. Mas também gostaria aqui de dizer o seguinte, nós não podemos é continuar a bater esta questão sem termos uma organização na defesa daquilo que são os interesses das comunidades portuguesas. Nós estamos carentes de líderes de influência. É um problema que existe e que sempre tem vindo a aprofundar aqueles que me ouvem, aqueles que são mais velhos. Pelo menos há 20, há 30, 40 anos, havia sempre um conjunto de organizações e de pessoas que reivindicavam, eles até reivindicavam demais. Mas eu acho que é chegado o tempo em que os líderes de influência da nossa comunidade pensem no conjunto do interesse de todos e que possamos uniformizar não só metodologias de trabalho, mas sobretudo haver reuniões de reflexão. Nós podemos continuar a fazer jantares e tudo, mas é preciso que a sociedade portuguesa residente em França e nos outros países das comunidades se organize em torno da reflexão, em torno do debate, esquecendo a ideologia política, mas procurando que os instrumentos democráticos e, neste caso, o voto e a participação cívica se encontrem uma solução comum para depois irmos todos a votos em condições em pé de igualdade, face à democracia, face à lei e face à Constituição. Aquilo que eu acho é que cada vez se reflete menos nas comunidades portuguesas, nomeadamente em França. Nós percebemos que as novas gerações estão muito viradas para a política local, mas nós não podemos continuar só com iniciativas de âmbito lúdico, que eu respeito muito e que gosto muito de participar. Nós temos que ter capacidade de pensar, nós temos que ter capacidade de refletir, nós temos que ter capacidade de opinar e temos, como é evidente, que apresentar propostas em conjunto e não andar divididos consoante os ciclos políticos, que é aquilo que infelizmente tem acontecido. Já somos fracos porque estamos no estrangeiro, estamos distantes, somos heterogéneos em termos de comunidade, porque viver aqui não é a mesma coisa que viver nos Estados Unidos ou no Canadá, as preocupações por vezes também não são as mesmas, nem relativamente ao país onde se vive, nem relativamente ao país de onde vimos, que é Portugal. E, portanto, acho que é tempo de fazermos algo em conjunto para que seja possível fazer um pouco mais de pressão junto dos políticos, de quem decide, e muito particularmente no aumento da participação parlamentar, que poderá certamente alterar algumas coisas com mais facilidade, nomeadamente a questão da participação cívica, mas o ensino da língua portuguesa, os serviços consulares, matérias que nós regularmente discutimos nesta rádio e em conjunto nos órgãos de comunicação social.
Ora, uma última questão, a Carlos Gonçalves. Bom, José Sadário conhece bem as questões de imigração, penso que é pela terceira vez que assume esse cargo a nível das comunidades portuguesas, de maneira que é verdade que o AD, o PSD mais o CDS-PP, não tem a maioria no Parlamento, mas Qual seria aquela medida que pensa que, precisamente, o governo, liderado por Luís Montenegro, poderá avançar relativamente às comunidades e aí, como diz o outro, encostar, entre aspas, à parede a oposição? Qual seria a medida que seria necessário tentar implementar o mais rapidamente possível?
Eu acho que há uma medida que toca menos a Europa, mas toca mais fora da Europa, é claramente que a rede consular comece a funcionar de forma regular. Nós não podemos ter uma rede consular que continua, em alguns sítios do globo, a ser completamente inconsequente naquilo que é atender os portugueses residentes no estrangeiro. Eu estou no consulado de Paris agora, nós temos portugueses que vivem 400 quilómetros, mas, por exemplo, na costa oeste, que eu agora conheço muito bem, dos Estados Unidos, temos portugueses a 4 mil quilómetros do consulado de Portugal. E depois chegam lá e não conseguem ser atendidos. Os trabalhadores, ainda por cima, durante muito tempo, foram mal pagos, houve uma alteração da tabela, porque já nem se conseguia recrutar trabalhadores. Eu estou aqui a dizer uma coisa que é verdade: os salários que eram pagos nos consulados de Portugal, nomeadamente nestes países, nem havia pessoas para concorrerem, tão baixos que eram esses salários. E, portanto, primeiro é pôr a rede consular a funcionar, redimensionar a rede consular à atual realidade das comunidades portuguesas. Como é que é possível que temos uma rede consular numa área, no estrangeiro, uma rede consular que serve a imigrantes, sabendo que a mobilidade, em termos de habitação dos imigrantes, é maior que qualquer outra categoria social. Uhum. E, portanto, eu acho que a rede consular é o primário. E depois é a questão da língua. E na questão da língua é necessário ter condições financeiras para que tenhamos professores bem pagos, para que esta carreira do ensino do português no estrangeiro seja uma carreira atrativa, que tenhamos capacidade na bilateral de negociar com os nossos parceiros. Aquilo que se passa em França, com o governo francês a não respeitar o acordo que assinou com Portugal, é para mim inaceitável, inadmissível, e faço o apelo aqui àqueles que vão participar nas autárquicas, na campanha para 2006, para 2026, que se lembrem desta questão. E, portanto, há aqui um conjunto de matérias que nós já andamos a falar há muito tempo, têm vindo a melhorar, foram criadas muitas expectativas, mas eu penso que é mais por aí que o José Cesário irá fazer o seu trabalho, e dando outra vez a possibilidade à comunidade portuguesa de se conhecer, porque pararam aqueles encontros da participação que criaram muitos dirigentes associativos, criaram muitos líderes de influência. E voltando à minha primeira conversa, é preciso que as nossas comunidades tenham líderes de influência que nos seus territórios onde vivem possam falar, possam agregar, possam federar as nossas comunidades. Aqui, eu sempre fui assim, um pouco isto, acho que nós devemos ser moderados, mas que quando o direito nos assiste, nós não devemos deixar levantar a nossa voz. Foi sempre aquilo que eu fiz, muito particularmente no seio do meu partido político, e não é por acaso que algumas das matérias que aqui estão nestas moções já foram levantadas no passado, o que levou uma das grandes figuras do PSE a dizer: lá está o Carlos outra vez a levantar a questão, mas ele sabe bem quem é aquele que ele levanta, e é bom que nós tenhamos capacidade de ter muita gente que, pelo mundo fora, defenda as mesmas coisas, muito particularmente naquilo que diz respeito a três matérias essenciais: atendimento consular, ensino da língua portuguesa, participação cívica e política.
Carlos Gonçalves, muito obrigado. Aliás, a propósito do ensino da língua portuguesa, tivemos há instantes aqui no estúdio Filipe Pereira, Mera de João, no João Silmão. Fiz-lhe a pergunta exatamente, e ele, como eleito local luso-descendente, ele deixou aqui um recado, precisamente, a todos os seus colegas luso-eleitos, disse: bom, trabalhem juntos, e façam pressão e por aí fora. De maneira que, bom, veremos.
Mas, Artur, permita-me só que diga uma coisa: a política não termina nos deputados e nos presidentes de Câmara. Quando se fala de língua e de ensino, a política também está nas comissões de pais nas escolas. E é importante que a nossa comunidade, os pais de alunos, os encarregados de educação, estejam nas comissões de pais das escolas. Porque muitas vezes o problema do ensino do português em França começa logo com o chefe de établissement. Portanto, chama a atenção, inscrevam-se e participem nas comissões de pais. Também elas estão politizadas em França, como o Artur sabe, eu sei, e a maioria dos ouvintes sabe.
Sim, a pergunta que eu faço ao sétimo de eleitos, nomeadamente de comissões, de federações de pais de alunos, e posso-vos assegurar que, infelizmente, nem muitos se querem molhar. Sei que este termo não devia utilizar, mas enfim, a língua portuguesa, bom, muito reticente de abordar o assunto, mas é que dá para refletir também. Mas enfim, Carlos Gonçalves, muito obrigado e vamos acompanhar...
Okay, muito obrigado e bom domingo a todos.
Muito obrigado e vamos acompanhar a par e passo aquilo que o governo de Luís Montenegro vai fazer para as comunidades portuguesas. E nós estamos a aproximar tranquilamente das 13 horas na próxima hora, pois bem, iremos falar que à volta do 25 de Abril, mas num colóquio internacional, o tema é Côte d'Avril en France, regard et mouvement d'hier et d'aujourd'hui, que os encontros que decorrem na Université Paris-Nanterre e igualmente na Maison du Portugal, cidade universitária. E falaremos igualmente de BD, isto a partir de Borboleta, de Madeleine Pereira, com todo um projeto que eles fizeram em Angoulême, que é a pátria da banda desenhada L'Atelier Brouillon.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Passage à niveau, deuxième heure, ce dimanche 27 octobre, émission avec rediffusion dans la nuit du mardi au mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Et dans le cadre du 50e anniversaire du 25 avril 1974, on va avoir un colloque international du 7 au 9 novembre. Le titre Écho d'avril en France, regard et mouvement d'hier et d'aujourd'hui, organisé par le CRILUS, Centre de recherche interdisciplinaire sur le monde lusophone, et la chaire Lindley Center de Université Paris-Nanterre. Isabelle Vielle, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci.
Alors, je suis désolée, j'ai pas une très jolie voix. Je crois que la dernière fois, c'était déjà pareil.
Non, mais l'important, c'est le contenu. Le contenu, ma chère. Alors, justement, finalement, ce colloque, bon, on aura le temps la semaine prochaine, avec grâce à Chunch, de parler justement des objectifs du colloque, bon, et donner le détail. De toute façon, ce détail-là, avec les réseaux sociaux, on va chez Crédit, et on trouve avec le programme complet, mais une chose est certaine, c'est qu'au-delà de tout ce qui a été fait autour du 25 avril, je pense que ce colloque, c'est essayer aussi ou tenter des approches comparatives qui vont croiser des champs disciplinaires, les thématiques et les aires géographiques. C'est pour ça que c'est un colloque international. Alors, il va avoir lieu en deux endroits différents, l'Université Paris-Nanterre et également la Maison du Portugal, la bien nommée André de Gouveille. Mais parlons de ce que vous allez aborder concrètement. Donc, ça va être le jeudi 7 novembre, la Contemporaine, à Nanterre. Donc, ça touche l'université. Le thème reflet et rémémoration littéraire de la Révolution. D'ailleurs, c'est une session qui sera modérée par José Manuel Steves. On l'embrasse. Alors, Isabelle Vielle, vous allez parler de la Révolution des œillets et le retour des exilés de points, fiction et témoignage. Effectivement, quand on se rappelle qu'il y a eu le 25 avril, les avions et les trains ont été pris d'assaut par des exilés, il y a beaucoup, beaucoup de choses à parler de ces témoignages.
Oui, effectivement, tu vois, on se souvient tous, en tout cas moi je me souviens d'avoir vu les photographies du retour de Mário Soares qui arrive à Lisbonne dans le Sud Express, parce que lui il arrive par le train. Et les journaux, les titres des journaux à l'époque, en tout cas au Portugal, ils affichaient des titres comme « Comboio de Liberdade »,« Traz apoio de exilados ». Donc les exilés étaient vraiment mis en tout cas en titre, en valeur dans les journaux portugais. On ajoutait même « Eles vêm ajudar a reconstruir Portugal ». Donc ils viennent aider à reconstruire le Portugal. Et en fait, moi je suis partie de ça. Parce que lorsque j'ai fait ma thèse et lorsque j'ai parlé des représentations des Portugais dans la littérature pendant la période de 1950 à 2000, je n'avais écrit qu'une trentaine de pages sur les exilés parce qu'à l'époque, il y avait peu de documentation Et tous les romans que j'avais trouvés sur les exilés, en fait, étaient écrits en portugais et il n'y en avait pas tant que ça. Alors, moi, je me posais un certain nombre de questions. Je voulais comprendre pourquoi il n'y avait pas en France un écrivain d'origine portugaise qui ait eu l'aura, en tout cas, d'un Tahar Ben Jelloun, ou même d'un Kubera, ou même d'un Saint-Prin. C'est pour ça que je suis partie, en fait, à la recherche de matériel et que j'ai eu envie d'écrire cet article, qui n'est pas d'ailleurs terminé, puisque je le présenterai le 7 novembre. Hein, voilà. Donc, je suis partie de cette question, pourquoi il n'y avait pas, alors que il y a eu un Tahar Ben Jelloun, il y a eu un Kundera, et puis un Saint-Prin. Et je voulais en fait connaître l'explication. Je suis partie de plusieurs hypothèses, hein, comme toujours dans une recherche. On peut. Est-ce que c'était la barrière linguistique? Est-ce que c'est parce que les Portugais ne parlaient pas assez bien le français pour pouvoir construire une œuvre, l'écrire en français? Mais alors, à ce moment-là, pourquoi Kundera écrit en français? Parce que lui aussi, sa langue maternelle était le tchèque. Et c'est seulement après. Ça, c'est une première hypothèse. Est-ce que c'est la langue maternelle? La deuxième hypothèse, est-ce que le fait que le 25 avril soit intervenu à peu près une quinzaine après l'arrivée massive de ces exilés à partir des années 60, est-ce que c'est un laps trop court pour élaborer une œuvre? Est-ce que les exilés sont retournés au Portugal tous? Est-ce qu'ils l'ont écrite en portugais? Je me suis posé toutes ces questions. Ou alors, troisième hypothèse, est-ce que c'était la barrière du milieu, la difficulté d'intégrer les milieux littéraires en France? Enfin, tout ça trottait dans ma tête. Mmh. Et en faisant des recherches, en fait, on se rend compte que ce n'est qu'à partir de l'an 2000 qu'il y a en fait des initiatives qui ont vu le jour par la publication de témoignages, et je pense que tu les connais, Arthur. C'est d'abord le premier livre en 2009 de Aish Pérez Gooding, « Quand ou futur existe ». Je ne sais pas si tu connais le livre.
Oui.
C'est un dialogue entre quatre exilés, mais arrivant en Belgique entre 64 et 69. Et le deuxième date de 2011, donc c'est 2 ans après. Et là, c'est le groupe de Genève qui va écrire un livre qui est Patria Utopica, au groupe de Genève Revisitado. Et là, ce sont 5 exilés, dont certains sont devenus très connus. D'ailleurs, la plupart de ceux qui sont intervenus, ce sont des exilés assez connus, mmh, où chacun ont une œuvre quand même assez importante. Et pour la France, ça n'arrive que bien après. Ça arrive en 2016 avec la publication de plusieurs ouvrages publiés par un collectif qui est Isir Stuchmundi, Isir Lardis, Isir Touche, Portugais, Genève, Europe. Peut-être que tu connais les ouvrages, tu les as probablement reçus et interviewés.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a maintenant le dernier, c'est Exil au féminin.
Voilà, exactement. Il y a eu 4 volumes qui ont... Donc tout ça jusqu'au dernier qui date de 2023. Donc tu vois, c'est que maintenant que les choses émergent et qu'on peut en fait commencer à regarder de plus près, tout en sachant qu'il y avait pas très peu d'études sur ces exilés. Hein. Il y a eu une première étude en l'an 2000 avec Victor Pereira qui avait fait un mémoire sur les exilés politiques entre 58 et 74. Et puis, il y a la thèse de Edwin Kuhn qui a parlé des communistes portugais en exil. Et puis d'autres qui ont parlé aussi de la gauche et l'extrême gauche au Portugal. Donc tu vois, les choses émergent que maintenant. Et moi, j'ai décidé de parler d'un roman. Tu as peut-être déjà reçu l'auteur également. J'ai choisi en fait le roman et la fiction parce que je trouve que le roman, dans un roman et dans une fiction, on dit beaucoup plus de choses. Et j'ai choisi de parler de Retour à Lisbonne de Carlos Cadebrito. Mmh. Je suppose que c'est quelqu'un que tu as déjà reçu pour son livre.
Oui, c'est incontournable. Bon, il faut pas ça.
Voilà, donc j'ai choisi ce livre en français puisque je cherchais en fait des livres en français pour pouvoir, puisque le colloque se passe en France. En France. Voilà.
Mais,
voilà quel est mon objectif, c'est de parler de ça et je te dis quel a été mon questionnement et pourquoi, parce que souvent les articles que j'écris partent en fait d'un questionnement, ça part d'une question à laquelle j'essaye de répondre, voilà. Mmh.
Oui, parce qu'effectivement, si on va avoir des études, bon, il y a Christine Klimek qui a fait tout un travail, mais ça date des exilés...
Ça date des années 40.
Oui, voilà, oui, bon. Il y a Herminio Guerreiro, un exemple, hein, c'est quelqu'un qui a dû partir du Portugal à cause du fascisme. Après, il a fait la guerre civile d'Espagne à côté des Républicains. Après, il a participé au maquis ici, il a aidé à libérer, entre autres, Montauban, hein, nos soldats français, etc. Mais effectivement, c'est une question que je me posais, parce que bon, on sait que ça fourmillait, surtout ici à Paris, des membres, bon, anciens PC, de l'extrême gauche, etc., etc. Il y avait tout un tas de choses qui se passaient, et également la librairie Maspero, qu'on pouvait trouver tout un tas de choses, mais c'est étonnant parce que finalement, ce sont des exilés, la bonne partie d'entre eux ont dû fuir la police politique, ont été déserteurs. Ce silence, on dirait qu'ils voulaient passer, être discrets. Finalement, c'est quelque chose qu'on critique au sein de la communauté portugaise, dite économique, parce que c'est politique, mais enfin, c'est que finalement, ceux qui avaient quelque chose à dire, qui l'ont dit, qui ont payé de leur chair, bon, ils se sont tus. Ça donne à réfléchir, tout ça, Isabelle Vierre.
Tout à fait. C'est des choses qui sont passées sous silence, qu'on n'a pas racontées. Et moi-même, je me souviens pas d'avoir rencontré dans mon enfance, un exilé politique. En tout cas, on ne me l'a pas présenté. C'est pour ça que je m'interroge et je me demande quelles sont les traces qu'ils ont laissées. Mmh. Et je suis à la recherche donc de ces traces, puisque il y a vraiment une différence entre l'exilé et le migrant. Ils ne se sont, en tout cas, dans leurs écrits, il y a vraiment cette séparation. Mmh. Il y a eux, exilés, et il y a les autres. Ils parlent souvent de compatriotes, de migrants, immigration économique. Il y a vraiment cette dichotomie, cette séparation.
Je m'excuse. Bien que, bon, il y a eu des pièces théâtre qui ont été créées ici.
Oui, pardon.
Il y a José Mario Branco, je parle de lui aussi, qui a fait pas mal de concerts, etc., etc.
C'est vrai qu'on parle de concerts, de théâtre, mais moi je parle de romans. Je parle d'écrit, parce que c'est ma spécialité, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a eu beaucoup de poésie. Je ne parle pas de poésie, mais il y a eu beaucoup de poètes, il y a eu beaucoup de poésie faite sur cette période-là. Il y a effectivement eu du théâtre, il y a effectivement eu des concerts, mais on n'en a peut-être pas assez parlé. Voilà.
Bon, alors, à propos de parler, on a déjà en ligne un collègue à toi. Je vais parler de Christophe Rouge. Christophe Rouge, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Isabelle.
Alors, il est au Portugal en ce moment. Je pense que c'est pas secret. Hein. Mais enfin. Alors, Christophe Rouge, vous allez aborder le thème. Hein. Ça sera le jeudi 7. Et également à la Contemporaine à Nanterre, donner vie à la Révolution des œillets, deux points. La communauté historienne et les archives révolutionnaires 1974-1976. Alors, pourquoi avoir choisi cette période 74-76?
Alors, bien, dans la mesure où le colloque s'étend sur, s'intéresse à la période de la révolution des œillets, j'ai décidé donc de commencer au 25 avril et d'arrêter à 76 avec la question de la constitutionnalisation, un peu comme l'a fait Victor Pereira, qui va un petit peu au-delà du 25 novembre 1975 et donc jusqu'au moment où la constitution est validée. Et donc, pourquoi avoir choisi la question des archives? L'enjeu, en gros, était à mon avis, était plutôt de voir un peu comment est-ce que les historiennes et les historiens travaillent donc à partir des archives, des documents qui nous permettent de comprendre la période choisie. J'ai voulu me pencher un petit peu sur cette question, même si ce n'est pas vraiment ma spécialité. Je voulais m'intéresser un peu à ce processus créatif de l'histoire et comment les personnes, les scientifiques font pour réaliser, pour écrire de l'histoire.
Alors, je vais diviser ça par deux. Christophe Rouge, donnez vie à la révolution des œillets. Bon, commençons par la communauté historienne. Est-ce qu'ils ont redonné, ils ont donné vie, ils ont maintenu le flambeau? Qu'est-ce que a fait la communauté historienne?
Alors, la communauté historienne, bien sûr, déjà, si on part du point de vue du Portugal, elle a connu un grand bouleversement avec 1974, mais là, on va plutôt s'intéresser aux historiennes et historiens qui ont parlé de ce moment-ci. Et comme toujours, on observe cette dynamique, c'est-à-dire qu'il faut un temps de latence entre le moment où l'événement se produit, donc là c'est clairement un événement historique, et ensuite il faut un peu de temps de maturation, on dira quelques années, et pour le Portugal on va dire qu'il va falloir attendre une bonne dizaine d'années, voire 20 ans pour qu'on voit une multiplication des travaux historiques sur cette période. Je pense à Medina Silva-Rezold qui a fait son travail sur le Conseil de la Révolution, et ensuite, dans la séquence de ce travail, de nombreux autres jeunes historiennes et historiens qui ont poursuivi là-dessus, et donc qui ont essayé d'un petit peu séparer, on dira, la question de la mémoire des militants qui ont combattu pendant, qui ont milité, qui ont manifesté pendant cette période-ci, qui ont espéré, qui ont souvent été désillusionnés, et qui ont perdu leur espérance face au 25 novembre 1975. Et donc, il y a souvent un peu une forme de mythe autour de ces événements, quand c'est quelque chose de très important dans la vie des personnes. Et le travail des historiennes et des historiens, ça a été justement d'essayer un petit peu de montrer comment cette période, qu'est-ce qui a pu se passer, même si on n'arrivera jamais à reproduire exactement ce qui s'est passé, mais essayer de s'en rapprocher le plus possible pour mettre en évidence un peu, séparer le mythe de ce qui a pu se produire. Et ça a été un peu cet objectif-là, je pense, pour cette période-ci.
Alors, les archives révolutionnaires de 1974-1976, une première question annexe, est-ce que ces archives sont déjà accessibles aux historiens et aux chercheurs?
Alors, la plupart des documents, on est passé le délai de 50 ans maintenant, officiellement, depuis cette année du cinquantenaire. Et le Portugal se caractérise par une politique d'ouverture des archives qui est quand même très favorable au travail des historiennes et des historiens. Donc, à part pour les éléments qui seraient secret défense, je pense notamment pour les dernières années pour le 74-75, moment où il y a encore des troupes en Afrique, mais qui vont rapidement retourner au Portugal, il peut y avoir encore des documents qui peuvent être classés. Mais pour l'essentiel, que ce soit les archives diplomatiques, que ce soit les archives ministérielles, les archives, on pourrait dire aussi, les archives ministérielles, les archives qui ont pu être réunies par certaines associations, ça peut, dans l'ensemble, c'est ouvert. Alors, il peut y avoir des fois des blocages, des difficultés d'accès, mais pour le cas portugais, c'est plutôt favorable. On y a accès.
Alors, quand on parle de tour du tombeau, donc là, il y a beaucoup, beaucoup de documents, entre autres. Bon, apparemment, on a accès à tous les documents, les rapports, les lettres, etc. La police politique, la PIDE. Alors, quand on parle des archives, aujourd'hui, je pense que les historiens, je pense maintenant à Fulton Rose, par exemple. Maintenant, on a un recul de 50 ans. Est-ce que ça nous permet de comprendre mieux ce qui s'est passé et après, je ferai un petit peu le parallèle avec aujourd'hui, Christophe Rouge. C'est que finalement, en voyant qu'est-ce qui s'est passé entre, surtout en 74 et 75, bon, jusqu'à la fin du PREC, en 76, ces archives, ça nous permet de comprendre mieux la dynamique du 25 avril. Et disons, bon là, je vais vous demander de regarder aujourd'hui, ça nous aide à comprendre un petit peu l'évolution du Portugal et tout ça ou pas?
Alors, ça nous aide, et en même temps, il y a toujours du travail, ce qui permet aux historiens, d'avoir une existence, parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut... Voilà, tout dépend des interprétations. Là, je prêche pour ma paroisse pour permettre qu'on travaille encore et qu'on ne soit pas au chômage. Mais bien sûr, ça nous permet de voir avec les documents qui sont accessibles, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, ça nous permet de séparer ce qui est de la mémoire militante, de voir ce qui a pu se passer des rapports qui ont été faits. Après, bien sûr, il faut toujours se dire qui a rédigé ce document, quel a été l'objectif, et donc des fois, on peut aussi être un peu orienté par les documents, par les sources, par les lettres, par les rapports qui ont pu être rédigés, comme on a pu le voir pour la question des archives de la dictature qui se sont maintenant ouvertes depuis 94 pour la police politique, puis des DGS. Mais pour ce qui concerne donc sur est-ce que ça nous permet de mieux comprendre, oui, bien sûr, parce qu'on a plus de documentation et surtout on a plus de points de vue qu'on peut confronter. On peut avoir se dépasser un seul point de vue d'une personne, d'un militant, d'une militante, et on va pouvoir confronter à d'autres points de vue, ce qui va permettre un petit peu d'enrichir, on pourrait dire, la vision de ce qui a pu se passer. Parce que c'est toujours ça l'histoire, c'est que c'est un événement qui est vécu par des millions de personnes, et donc il y a des millions de points de vue. Et bien sûr, on ne pourra jamais retranscrire tout cela, mais au moins on peut avoir une diversité d'approches et essayer de voir un peu la complexité de ce qui a pu se passer, la diversité des points de vue, et ne pas avoir une seule vision qui serait un peu qui serait trop simplificatrice, on pourrait dire.
Alors, Isabelle Vierre, est-ce que finalement la littérature peut éclaircir ou nous ouvrir un petit peu des perspectives, nous ouvrir des nouvelles façons de voir les choses? Parce que là bon, on parle d'archives, et là, et avec toi, c'est littérature. Parce que finalement, on ne peut pas séparer une chose de l'autre.
En fait, on a besoin de tous ces points de vue, c'est-à-dire le point de vue de l'historien, le point de vue du sociologue, et le point de vue également de la littérature, mais aussi des témoignages. Il est important que tous ces points de vue vont ensuite aider à avoir peut-être une vision de ce qui a pu se passer antérieurement. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la littérature permet de dire beaucoup plus de choses, des choses qu'on n'oserait pas dire lors d'un témoignage, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de dévoiler. Et ça permet d'avoir quelque chose qui est incarné. C'est un personnage, c'est un être humain que l'on suit et qui va nous donner sa vision du monde. Voilà. Moi, je pense qu'on se nourrit de littérature, d'histoire, mais aussi de sociologie. Voilà. On a besoin de tous ces points de vue.
Christophe Rouge, une réaction?
Oh ben, tout à fait. On peut être d'accord avec ma collègue. c'est dans sa diversité, parce que l'histoire, voilà, c'est les documents bruts, c'est rédigé parfois par des personnages officiels, des policiers, des diplomates ou autres. Alors que, en prenant en compte la littérature, on a aussi tout ce qui relève un peu de l'imagination, de la créativité, qui peut être à la fois fictive ou bien plutôt réelle, si ça se fonde sur des témoignages. Et donc, c'est en cela qu'on a un intérêt à mobiliser, à croiser toutes ces disciplines pour essayer de rendre compte de toute cette complexité. Et je ne peux qu'être d'accord avec cela, parce que très souvent, les historiens et les historiennes vont pouvoir se mobiliser des ouvrages littéraires, des témoignages aussi, surtout, qui sont plus souvent mobilisés. Mais voilà, dans cette créativité, parfois, même si ça ne s'appuie pas sur des archives, on va pouvoir un peu peut-être sentir une époque, voir des choses, des habitudes que l'on n'arriverait pas à percevoir dans un document officiel. On sera au plus proche peut-être du vécu de ces personnes si l'autrice ou l'auteur a vécu ce moment-ci, et donc on peut mieux concevoir, mieux comprendre cette période-ci, je pense.
Ça me revient maintenant, c'est en genre de provocation. Bob Dylan a eu le prix Nobel de la littérature. Alors, je pose la question, est-ce que les textes de Luis Siria, qui a été exilé ici, José Mario Branco, est-ce que ces textes-là, finalement, ça fait partie de la littérature ou pas? Et là, on a un rapport avec le 25 avril, avec les îles, par exemple, avec les textes de Luis Siria et José Mario Branco.
Alors, pour moi, la chanson fait partie de la littérature, mais c'est une opinion personnelle. Parce que ce sont des textes qui nous habitent, qu'on a chantés, qu'on a dit peut-être parfois, et en ce qui me concerne, c'est pour moi, c'est de la littérature, voilà.
Parfait. Christophe Rouge, je vous remercie, Isabelle Vierre également.
Obrigado, merci.
Muito obrigado. Obrigado, nosso. Lembro o colloque international dans le cadre du cinquantenaire de la révision des œillets de 25 avril 1974, écho d'avril en France, regard et mouvement d'hier et d'aujourd'hui. On a parlé de deux choses bien concrètes, mais voilà, bon, je pourrais vous avancer aussi. Hein. Entendez vos songes, ceci est mon corps. Ceci est ma voix. Bon, c'est un thème qui va être abordé par Fernando Corops, mais dimanche prochain, donc, on aura l'occasion de donner le point de vue d'ensemble de ce colloque avec Grace Tchunch, et on espère avoir aussi Raquel Schiffer. Il revient aux archives, hein, Christophe Rouge. Les archives de la révolution 64-75 au Portugal et de la libération du Mozambique, circulation, détour, déplacement, enfin, tout un programme. Merci à tous les deux et en avant. Alors, oui.
Et je souhaite un très bon dimanche à tous les auditeurs et j'embrasse les gens qui sont issus de ma région, qui est Flexjetspit. Voilà.
Voilà, bon.
Je les embrasse.
Et nous aussi. Et je rappelle donc.
Merci infiniment.
Alors, Isabelle Vielle va être la session 3, reflet et rémunération littéraire de la Révolution, à partir de 14h30, ça à la Contemporaine Nanterre, et un peu plus tard, ça, le jeudi 7 novembre, le jour même, mais à partir de 16h15, session 4, archives corps et corpus, là, ça va être Christophe Rouge, donner vie à la Révolution, la communauté historienne et les archives révolutionnaires de 1974-1976. Merci à tous et à bientôt.
Merci.
Bon. Enfin. Et já que falamos de José Mário Branco, pois bem, o filho dele, o Pedro Branco, vai estar aí. Pedro Branco nasceu aqui em Paris, numa altura em que José Mário Branco estava exilado aqui na capital francesa. Três concertos estão agendados por Pedro Branco e o contrabaixo Gonçalo Alegre. O primeiro é sexta-feira, dia 1, às 20 horas. O segundo, sábado, dia 2, às 20 horas. O terceiro, no domingo, dia 3, às 18 horas. Aonde no Les Rendez-vous d'ailleurs, 109 Rue des Haies, em Paris 20, podem reservar os bilhetes através do quê? Do Billet Réduit, que ainda por cima custa mais barato. É daí que vamos ouvir agora uma canção que faz parte do último álbum de Pedro Branco, Amor, e é o título igualmente da canção.
Thank you.
revient au direct, Passage à Niveau, ce dimanche 27 octobre, émission, je rappelle, avec des rediffusions de l'année du mercredi à mercredi, mardi à mercredi, à partir de 0h, sans oublier le podcast. Bon, mes amis, on va quitter la région parisienne, on a passé pour le Portugal, on va jusqu'à Angoulême. Madeleine Pereira, bonjour.
Oui, bonjour.
Mais alors, cet atelier oui. Beaubrouillon, est-ce que les travaux sont finis? Parce qu'il y a des photos, j'ai récupéré des photos, où justement, bon, vous étiez en plein, bon, il y avait, certains étaient avec l'ordi devant, mais derrière, il y avait des gens qui montaient des cloisons et tout et tout. Alors, ça avance un petit peu les travaux ou pas?
Bah, ça avance, on a coupé une cloison pour mettre de la lumière, et après, il faut qu'on fasse une arrivée d'eau chaude pour la cuisine, parce qu'en fait, c'est une ancienne auto-école, le local. Et donc, on a trois parties, petites pièces où on peut travailler déjà maintenant, et on est 13. Et après, il y a une partie plus loin qui est une partie garage, avec un espèce de box. Et là, on veut faire une pièce commune, du coup, avec une cuisine, un salon, et pouvoir travailler aussi derrière. Et donc, pour ça, il nous faut de l'eau chaude. Donc, on a fait un financement participatif pour pouvoir acheter des brouillons. Parce qu'on est 13 artistes auteurs de bande dessinée. Et ensuite, pour pouvoir récolter des sous et pouvoir faire un peu plus de travaux. Donc, on a déjà repeint des murs, pété une cloison, et on installe les bureaux, là. Donc, voilà, ça commence.
Oui, non, mais il y a des choses basiques. Hein. Bon, une lunette WC.
Bon, oui.
C'est basique. Un frigo, une gazinière, de vaisselle, une arrivée d'eau chaude. Bon, il arrive. Oui. Des bouilloires, canapé, tapis. Alors, tout ça, bon, alors, ceux qui habitent à Angoulême, au pas trop loin d'Angoulême, rue de la Tranchade, c'est ça votre adresse?
C'est ça. C'est vers Victor Hugo, c'est un quartier où il y a un gros marché le dimanche, qui est trop bien. Et du coup, c'est un quartier qui est un peu vide, on va dire. Il n'y a pas trop d'actions culturelles. Donc là, le fait qu'on soit implanté, ce qui est cool, c'est qu'il y a tous les voisins qui viennent nous voir en disant « Ah, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et donc, on compte faire atelier d'artiste, on peut travailler et en même temps faire des expositions et des événements peut-être deux fois par an. Donc là, on fait une soirée d'inauguration en décembre, début décembre, pour pouvoir faire une exposition, lancer l'atelier et montrer à tout le monde ce qu'on fait, quoi, en gros.
Alors, c'est un espace de travail, de vie commune, et de partage et de mulation.
C'est ça.
Alors, 12 à 14 artistes, bon, actuellement, vous y êtes déjà, pratiquement. Mais, oui. Alors, ça, bon, on sait très bien que la bande dessinée, c'est pas évident, pour ça nourrit pas son auteur, souvent, ouais. Etc., etc. Et le fait que vous faites partie, bon, d'une nouvelle génération de dessinateurs, dessinatrices et d'auteurs. Et, donc, bon, mais vous êtes quand même dans la patrie de la bande dessinée à Angoulême.
Oui. Et ce qui est bien, c'est qu'à Angoulême, il y a plein d'auteurs qui viennent s'installer aussi. Donc, on a une grosse communauté d'auteurs de BD, mais c'est vrai que la plupart, on n'en vit pas forcément très bien. Et on peut pas, enfin, travailler chez soi, il faut avoir de l'espace. Et en plus, ça veut dire ne pas sortir de la journée et ne voir personne. Donc, c'est un peu compliqué. Et là, ce qu'on voulait vraiment faire avec des copains, c'était avoir un espace où on puisse se retrouver et on puisse bosser ensemble. Et surtout, et donc on a monté l'association en 3 mois. Enfin, on a monté l'association et trouvé un local en 3 mois. Donc ça a été super rapide. Donc voilà, donc c'est trop bien. On est trop contents parce qu'en fait jusqu'à maintenant on n'avait pas d'atelier commun. Chacun bossait dans des résidences ou des trucs comme ça, mais au bout d'un moment ça se termine. Donc là, fallait trouver un endroit assez pérenne. Et on paye pas non plus trop cher de loyer, donc ça va.
Ben c'est ça que j'aurais demandé parce que c'est un local loué. Donc c'est loué au tarif des artistes.
Non, en fait, c'est un local commercial. Du coup, c'est 750 euros par mois, pour tout vous dire. Et comme on est 12, bah, ça fait 60... Non, on paye 75 euros par mois en comptant l'électricité et l'eau.
Bon.
Donc, ça revient OK.
Voilà, donc, financement participatif. Alors, sauf erreur de ma part, si on aide à financer, etc., etc., en plus, on peut déduire une grosse partie des impôts. Comment ça marche?
Alors nous, on paye pas. Moi, je paye perso, je paye pas d'impôts parce que je gagne pas assez d'argent.
Non, je paye pas. Non, c'est les gens qui participent.
Ah oui,
il faut donner en reçu automatiquement. Bon, je ne sais pas, il faut vous renseigner, Madeleine Pereira, là-dessus.
Oui.
Donc,
Je me renseignerai, mais c'est vrai que je ne sais pas, ouais.
Ouais, bon, vous êtes une structure associative.
Ah oui, du coup, on a une asso. Oui, il y a moyen.
Parfaitement, bon, pensez-y à ça. Rajoutez tous ceux qui participent et pouvons réduire, je pense, jusqu'à 75%. Savoir si on donne 100 euros, ça veut dire qu'en réalité, bon, on va déduire 75 euros des impôts pour ceux, les heureux. Ça commence.
N'hésitez pas à participer.
Voilà. Alors, Madeleine.
Et puis surtout, on donne des originaux, donc on vend des originaux, donc des dessins originaux. Donc ça, c'est quand même cool.
Ouais, c'est-à-dire il y a des contreparties entre guillemets. Bon, je mets ça c'est entre ça. Guillemets hein, parce que quand on est solidaire avec un projet comme ça, bon, on n'y pense pas, mais avoir une planche originale, et quel bonheur. Moi, j'en ai eu deux, trois de dessinateurs de presse brit. Bon, c'est une petite merveille, je vous dis pas. Alors, Madeleine Prel, scénariste. Dessinatrice, alors j'ai lu quelque part, fan de gravure, images imprimées et céramiques, et elle continue ses pratiques quand elle a le temps.
Oui, c'est ça, c'est que j'ai fait un stage de gravure en 2017 vers Auxerre, à la Métairie-Bruyère, et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai trop aimé la gravure, donc c'est une technique, moi je fais de l'aquatinte, c'est une technique qui utilise des acides et du cuivre, et du coup, je peux en faire en Angoulême parce qu'il y a un atelier qui s'appelle Le Bouc, qui a le matériel qu'il faut. Du coup, je vais là-bas un petit peu. Et puis, la céramique, j'ai découvert il n'y a pas très, très longtemps. Et j'ai investi dans un four à céramique. Du coup, là, je vais en faire plein avant Noël. Parce que j'ai envie de faire des pieds de lampe, mais en mode comme des personnages. Et j'ai envie de faire des portes brosses à dents, des portes savonnettes. Enfin, bref, plein de trucs. Enfin, je trouve que la céramique, c'est hyper apaisant. Donc, j'adore. Et puis, on peut faire plein de formes différentes. Oh, c'est trop bien.
Voilà. Et vous avez un petit peu le temps de le faire maintenant ou pas?
Là, j'étais partie en résidence pendant 2 semaines à Carpentras, dans le sud, vers Avignon. Mmh. On a fait de la peinture sur carton avec une structure pour les personnes en réinsertion. Donc c'était trop bien. Et là, je viens de rentrer chez moi en Angoulême. Donc là, je me suis dit, là, pendant 2 semaines, je suis chez moi, donc je vais pouvoir en faire. Et après, je dois aller à un festival de BD à Toulon. Et puis ensuite, à Paris, il y a un festival qui s'appelle Hola Paris.
Tout à fait.
Du Portugal.
Eh oui.
Ouais,
ça sera à la fin novembre, tout ça.
C'est ça,
fin novembre.
Je serai là-bas.
Bon, alors, Madeleine Prel, revenons à notre bourlette. Bon, bientôt, elle va voler aussi sur les cieux portugais, avec une version portugaise, mais ce sera en 2025, on verra tout ça. Alors, peut-être, bon, on avait parlé à la sortie de votre livre, c'était le 3 avril exactement, aux éditions Sarbacane, on les salue, bien bas. Et alors, Madeleine Prel, il faut dire aussi que c'est vrai que le départ de cette BD, c'est bon, un petit peu, c'est à cause ou grâce à votre père. Expliquez-nous, parce que finalement, parler du pays, de son pays natal, son enfance sous la dictature, bon, il était très, très, très réticent, il voulait pas en parler. Comment vous avez fait pour le faire parler, bien que je pense que c'est la famille finalement que vous avez aidé.
Alors du coup, l'histoire, c'est que, en fait, comme mon père, il est venu en France quand il avait 13 ans, en 73, à chaque fois, nous, on allait au Portugal quand on était petite pour aller voir la famille, et je sentais toujours une espèce de connexion avec le Portugal, mais sans comprendre exactement pourquoi. Et donc, il y a quelques années, j'ai voulu commencer un projet autour du Portugal pour parler de la dictature, parce qu'en fait, en France, on apprend en histoire Hitler, Mussolini, un tout petit peu Franco, mais alors Salazar, on n'en parle jamais. Et du coup, donc, je voulais en savoir un peu plus. Et surtout, je voulais savoir ce que mon père avait vécu au Portugal et pourquoi il était arrivé en France. Donc, j'ai commencé à lui poser quelques questions. Sauf qu'il est hyper taiseux, donc il n'en parle pas du tout. Comme s'il était trop chargé émotionnellement et qu'on ne pouvait pas aborder le sujet, parce que sinon, ça allait tout faire craquer. Et donc j'ai commencé le projet de bande dessinée autour du Portugal. Et donc, c'était un peu l'excuse pour qu'il me parle de sa vie, en lui disant que j'avais besoin de son histoire pour pouvoir écrire. Sauf que à chaque fois que je l'appelais pour lui demander de me raconter, il me disait qu'il n'avait pas le temps. Et à chaque fois, il m'a réorienté vers des amis à lui qui avaient quitté le Portugal entre leurs 10 ans et leurs 18 ans. Et donc, en fait, la BD, finalement, elle est construite comme ça. C'est mon personnage à moi qui essaye de comprendre ses racines et l'histoire du Portugal. Et du coup, qui mène une enquête sur ce qui se passait à ce moment-là au Portugal. Et au travers de 5 témoignages de personnes qui racontent leur enfance là-bas et pourquoi elles sont arrivées en France. Et en fait, ça termine avec le témoignage de ma tante qui raconte du coup l'histoire de la famille. Et on comprend un peu plus à travers les yeux de ma tante pourquoi mon père ne parle pas. parce que du coup, c'est trop, il y a beaucoup de tabous et des choses comme ça.
Est-ce que, bon, c'est personnel la question que je vais poser, est-ce que finalement, avec votre BD, il y a une ouverture de la part de son père, vous avez mieux compris la personnalité de votre papa?
Oui, je pense. Bah, déjà, j'ai mieux compris ce qu'il avait pu vivre. Et je comprends aussi pourquoi il parle pas. Et j'ai pas envie de forcer. Enfin, je veux dire, c'est comme s'il avait une carapace que je comprends. Et du coup, j'ai pas envie de l'enlever pour que ça s'effondre. Donc, je préfère laisser. Et puis, je me dis peut-être les personnes en vieillissant, elles commencent à s'ouvrir, surtout avec les petits-enfants. Je sais pas. Donc, j'ai quand même espoir, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui font ça, qui parlent plus à leurs petits-enfants qu'à leurs enfants.
Oui.
Et comme ma sœur, elle a un bébé maintenant, je me dis, bon, peut-être dans quelques années, je sais pas, j'ai espoir. Mais, bon. Mais c'est vrai que j'ai fait la BD pour lui, en fait, pour lui dire que je l'aimais et que j'avais envie d'en savoir plus, quoi. Enfin, qu'il pouvait nous raconter, voilà.
Alors, avec Bourboulette, Madeleine Pereira, les planches, c'est on plonge, c'est le cas de le dire, avec les planches, on plonge dans le milieu portugais. Des paysages, l'architecture portugaise, et oui. Ça, c'est le rapport, et d'ailleurs vous reproduisez aussi les couleurs des immeubles portugais, c'est très important. Ça a été un truc, parce qu'entre le jaune et c'est pas un rouge, c'est pas un rouge bordeaux, c'est je ne sais pas quoi exactement, etc. Les maisons en ocre, etc. Bon, donc c'est de la lumière que ça,
oui. Oui. Mais parce qu'en fait, dès que moi je dessine beaucoup d'observations, donc j'ai toujours un carnet sur moi. Mmh. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais au Portugal, je me dis ah mais quelle chance d'avoir des murs colorés, ça change tout. Mmh. Enfin, je me dis la vie elle est plus jolie quoi avec des murs en couleur. Et du coup, je voulais vraiment retranscrire ça dans la BD, surtout que enfin je sais pas, je trouve le Portugal tellement beau. En tout cas, les endroits où je suis allée, donc c'est surtout plutôt Lisbonne et Montijo. Mais je voulais vraiment montrer dans la bande dessinée qu'il y avait plein de couleurs au Portugal et que c'était hyper important. Et puis c'est hyper beau, j'aime trop les orangers dans la rue, enfin entre des escaliers, je sais pas, genre tout est magnifique. Et le linge qui sèche, ça c'est le truc que je préfère. Et les ventilations sur les murs aussi dehors, sur les façades. Et les fenêtres aussi, elles s'ouvrent dans l'autre sens parfois, enfin en horizontal.
Ouais.
Je trouve ça tellement beau. Et les pavés aussi, par contre les pavés, parce que tout est au crayon de couleur pour la couleur. Et les pavés, comme il y a que des pavés à Lisbonne quasiment. Je me tuais à les faire au crayon de couleur, donc fallait toujours que je retaille mon crayon pour que ce soit hyper précis. Et des fois, je passais des heures à faire que des pavés. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Mais en même temps, c'est ça qui fait le Lisbonne aussi. Donc, je sais pas, ouais.
Ah, ouais,
ah c'est trop beau.
Sans oublier les draps qui sèchent à la fenêtre.
Ah oui, oui, oui. Ça, je comprends pas pourquoi en France, il n'y a pas ça. Enfin, en tout cas, il n'y a pas beaucoup ça.
Ouais, non, il faut aller en province. Il faut aller dans
le sud.
Dans les petits patelins, comme on dit.
Oui.
Vers Toulouse, là. Bon, ça, c'est une autre affaire. Madeleine Pereira, donc, il y a la BD, Bourboulette, aux éditions Sarbacane. Madeleine Pereira qui va être ici, à Paris, à la fin du mois de novembre. On va vous rappeler à ce moment-là pour que vous nous disiez un petit peu qu'est-ce que vous allez faire ici exactement à Paris. Alors, une chose concrète pour ceux qui veulent faire un financement participatif et aider justement l'atelier Brouillon. Brouillon, mais c'est dans le bon sens du terme. Comment faire?
Alors, du coup, on a créé une page Instagram pour les réseaux sociaux avec les informations et on a une page sur Ulule, hein, donc le site internet de financement participatif. Il faut juste taper Beau Brouillon dans la barre de recherche et là on tombe sur notre financement participatif. Et puis ensuite on peut choisir de donner de l'argent en échange de contrepartie. Donc c'est des dessins originaux de plusieurs personnes. Donc on est 13 en tout. Enfin 12 pour le financement participatif. Et donc il y a des planches de. Ça va de planches de BD à des petits dessins de brouillon sur des petits bouts de papier. Voilà. On a essayé de choisir des choses assez chouettes. Et en fait, qui finalement, quand elles sont encadrées, ça donne bien, ça rend bien.
C'est ça, j'allais revenir au cadre. Bon, il y a plus que trouver un petit artisan qui fasse des cadres là à côté de chez vous.
Ouais, c'est ça.
Non, mais
on a des amis qui font du bois, donc ça pourrait marcher, ouais.
Bah voilà, bah il faut penser à tout là-dessus. Et qui t'a fait. Madeleine Pereira, je vous remercie, muito obrigado. Et bon, l'invitation est faite pour la fin du mois de novembre pour parler de votre venue ici à Paris et en la Paris.
Oui. Bon, ça marche. Merci beaucoup.
Merci, Madeleine. À très bientôt. Oui. Obrigado.
Tchau.
E nós estamos a chegar ao final da emissão. Um grande obrigado igualmente ao Manuel Alexandre. E, bom, o anúncio, eu queria relembrar novamente que Pedro Branco vai estar aqui em Paris, 3 concertos com o contrabaixo Gonçalo Alegre no Les Rendez-vous d'ailleurs, dia 1, dia 2 e dia 3 de novembro. Sem esquecer igualmente para todos aqueles que andam aqui em Paris e, sobretudo, a Tour Saint-Jacques, Rue Rivoli, continua patente uma exposição com fotografias alusivas à Revolução dos Escravos, a Revolução do 25 de Abril. O título é Ode pela Democracia, exposição de 3 fotógrafos, Alessio de Andrade, Jean-Claude Francolon e Guy Le Querec. Isto até o dia 20 de novembro. Tem tempo para aqueles que andam aqui a passear em Paris. Para aqueles que queriam ir ao Teatro de La Ville para ver a peça, precisamente, à volta de Fernando Pessoa, pois bem, Pessoa Sainz, I Haven't Been Me, é o título em inglês, de Robert Wilson. Pois bem, as representações entre o dia 5 e dia 16 de novembro estão esgotadas, não é nada para ninguém. E já agora vamos terminar com música, vamos falar de Lucibella, que vai estar no dia 15 de novembro no Café de la Danse aqui em Paris, espetáculo agendado para as 19h30. A primeira parte será pela jovem cantora com origem de Cabo Verde, Cátia Semedo, mas enfim, isto é outra história. Obrigado a todos, e aqui fica Lucibella, live que foi feita em Nashville, nos Estados Unidos, em 2022. Lucibella, Café de la Danse, do 15 de novembro de 2024.
Poder